de la pépinière, un aimable commerce qu'on dirait replié sur lui-même, impressionné par la masse voisine du cercle militaire, bâtiment trop haut aux façades semées de faisceaux, d'écussons, de canons, de cuirasses, et voué en plein Paris, aux plaisirs amés de la vie de garnison. Ils foulèrent avec plaisir la sueur du sol, se réchauffèrent au bruit familier. Le zinc fraîchement lavé renvoyait des lueurs fortes et rassurantes. Le jour était gris et froid dehors, gris et chaud dedans. Le parvis de Saint-Augustin s'animait. Voitures à cheval, automobiles débouchaient des rues voisines et s'arrêtaient au pied des escaliers. Des gens arrivaient à pied ou en omnibus. Quelques voyageurs portaient sur leur visage les marques du froid de l'impérial. Bientôt un flot régulier heurta les marches. Les portes en cuir bouilli battaient au rythme de ce flot. On vit s'accélérer le roulement des voitures, puis la basilique au faux air byzantin déborda. Les habits noirs, les uniformes, les manteaux bleus de l'assistance publique se serrèrent au dehors. Il était près de midi. Un quart d'heure plus tard, la place Saint-Augustin fut envahie à son tour, puis le boulevard Malesherbes de la rue de la Bienfaisance à la rue La Boétie. Toute cette foule attendait sans impatience. Quelques gardiens de la paix, descendus de leur commissariat, se mirent en état d'assurer l'ordre public. Le porche de l'hôtel était étroit, et la cour pavée assez petite, comme souvent autour du parc Monceau. Madame Alcossé craignit un instant que le corbillard ne pût sortir. Il était pourtant entré, mais depuis, on avait tendu le porche d'un grand drap noir en forme de rideau de théâtre, orné en lettres d'argent des initiales du mort. De fait, la voiture en ressortant accrocha un peu de drap, qui s'enroula au moyeu d'une roue, au moment où le cocher qui n'avait rien vu pressait ses chevaux. Le portique funèbre s'abattit brusquement dans un froissement soyeux comme celui d'une robe de femme. Deux domestiques décrochèrent le drap, le roulèrent, et Madame Alcosser, se retournant, les vit qui tenaient cette boule noire pliée contre devant l'entrée de la maison où ils avaient vécu. Augustin Pierre et son ami se frayèrent un chemin dans la foule et gagnèrent la nef. Ce seraient les funérailles d'un des plus grands cliniciens du siècle, un irrégulier mais l'un des plus grands. Des funérailles de foule et d'ombre et de lumière. On voit au premier rang la faculté en toge, plusieurs ministres, les représentants des académies, puis ses élèves, et les internes et les infirmières auxquelles on a demandé de garder leurs longs manteaux bleus. Il y a le vicaire général des hôpitaux, le provincial des jésuites de Paris qui doit prononcer l'oraison funèbre et le curé de Sagoua-la-Grande qui ne comprend pas le français. Enfin, tout au fond, au dernier rang, caché, dissimulé, les psychiatres et le personnel de Sainte-Anne, comme un dernier obstacle à sa gloire. Six internes de la pitié portèrent le cercueil au pied de l'autel au milieu des couronnes. On distinguait celle du président du conseil, celle du perpétuel de l'Académie de médecine, celle du directeur de l'assistance publique et celle de l'ambassadeur de Cuba. Du dehors montait la rumeur d'un bon millier de ces anonymes qu'il avait soignés, eût-on dit, sans les voir. La famille prit place avec de pauvres gestes. C'était en réalité la famille de sa femme. Celle-ci s'agenouilla et demeura prostrée un instant, comme si elle cherchait à échapper à ses cortèges, à toute cette foule et peut-être au souvenir de cet homme qu'elle avait admis et supporté, puis aimé à la longue sans le comprendre, et qui lui manquait à présent. Au moins, il n'aurait appartenu à personne, se dit-elle, certes pas à elle, mais pas non plus à tous ces gens. Ce lui fut un réconfort lorsque éclatèrent les premières notes d'une des sonates en trio de Bach. Forcé à la simplicité, le grand orgue romantique de Saint-Augustin laissait comme à regret échapper ses sons d'ailleurs. Pierre avait voulu cela, Alcossé le méritait. C'était un peu corriger le destin. Sans doute son maître aurait-il agréé ce faste funèbre. Le vicaire général se porta devant l'autel, entouré du provincial des jésuites et du curé de la paroisse. Le curé de Sagoua se tenait en retrait. Étendant les deux mains, paumes tournées vers le ciel comme le prescrit le rituel romain, le vicaire rompit le silence d'une voix faible qu'il ne se souciait pas de forcer. « In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. et ils ont l'habitude de la mort, se dit Pierre en écoutant les simples mots de l'introïe. De la même voix égale, le vicaire prononça l'invocation du psaume 42, où le psalmiste demande à Dieu de le défendre contre les ennemis de son salut. Judicam 2, et discerne qu'aux âmes mime de gente non sancta, abomine inico et doloso erum. Puis, la longue houle du confiteor parcourut l'église en un murmure où dominaient les voix les plus graves, et dont la puissante banalité fit tressaillir Augustin. Confiteor de haut omnipotenti, biti Marie sempe Virgini, biti Michaeli Arcangelo, ici il pensait toujours à Michel-Ange, à la Sixtine, à la chute originelle, biti Giovanni Battiste, sancti apostoli Petro et Polo, omnibus sancti et vobi fratre. Les vieux avant nous au paradis, et ceux qui comme ma tante ne disent jamais un mot sont Jacquelin. Qui a peccavi nimi, cogitation, verbo et opre, en parole par les pensées et par les actes, ainsi tout est couvert, il faut bien être coupable, se dit Augustin, mi culpa, mi maxima culpa, c'était bien les impressions de l'enfance, le tumulte des pécheurs montant vers la voûte, un tumulte fait pour frapper les esprits. Le curé de Sagua-la-Grande était un petit vieillard jauni aux allures de missionnaire. Il disparaissait presque derrière le lutrin. D'une voix basse, il lut très lentement, en butant sur les mots, les derniers versets de l'Ecclésiaste où il est question d'un chemin vers la mort. Puis le curé de la paroisse fit entendre les mots par lesquels l'apôtre Paul abolit, au nom du Seigneur les nations et les races. Enfin le vicaire lut le récit de la vocation de Pierre dans l'évangile de saint Jean, « Quand tu seras vieux, un autre que toi nourra ta ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas aller. »